Chapitre 9. Au hameau, Vera essaya pour la quatrième fois de démarrer sa voiture. À chaque tentative, même topo. Elle tournait la clé, entendait un léger bruit, observait les différents voyants qui s'allumaient comme d'ordinaire, sauf que rien ne se produisait. Elle claqua furieusement les mains sur le volant. Et merde ! Elle avait toujours redouté que ce genre de pépin n'arrive, et évidemment, ça lui tombait dessus au pire de l'hiver. Or, si elle pouvait se passer d'une petite coupe chez le coiffeur, ce n'était pas la même histoire avec la nourriture. Il allait falloir qu'elle se réapprovisionne au plus vite. D'ici une semaine, en effet, ses stocks de conserves, de soupes en sachet et d'alcool seraient au plus bas. Mais surtout, elle manquerait d'allumettes, indispensables pour faire fonctionner son poêle à bois. Elle chercha le bouton pour déverrouiller le capot, eut du mal à l'ouvrir à cause du givre, et comprit finalement que ses efforts ne serviraient pas à grand-chose. Ses connaissances en mécanique frôlant le néant, elle se sentit complètement impuissante. Elle devait se rendre à l'évidence. Elle ne rejoindrait pas la ville avant un bon bout de temps. La jeune femme rabattit le capot et découvrit que la neige avait été chassée au niveau de sa plaque d'immatriculation avant. Elle se baissa, constata que quelqu'un avait bien frotté à cet endroit, comme si on avait voulu lire le numéro. Puisqu'elle avait beaucoup piétiné les alentours, elle ne put distinguer d'autres pas que les siens. Elle se précipita vers la plaque arrière où, cette fois, la neige demeurait. Tout cela était bien étrange. Vera jeta un regard en direction du hameau. Des ruines figées, comme sur une peinture centenaire. Une impression de fin du monde s'en dégageait. Au loin, là-bas, une silhouette courbée sous le poids de jerrycans se détacha de l'ancienne boulangerie. L'homme s'arrêta au milieu de la route verglacée et posa son chargement pour lui faire signe. Vera reconnut Arnaud le maire. Il passait son deuxième hiver dans un Algeco et lui aussi avait tout perdu à cause de cette fichue maladie. Son métier de cadre commercial, sa femme, ses enfants. Vera lui adressa un geste en retour et se dirigea vers lui. Ils se saluèrent, prirent de leurs nouvelles respectives. L'homme avait une cinquantaine d'années. Des glaçons pendaient au bout de sa longue barbe grise. Manque de chance, il n'avait aucune compétence pour lui apporter de l'aide.
« Je suis désolé, mais il y aura bien quelqu'un qui pourra vous conduire à la ville. Sinon, on y va dans 2 jours avec Gérard, l'ex-prof qui habite à 2 Algeco du mien. On pourrait vous embarquer pour que vous contactiez un dépanneur. »
« Merci, je retiens cette solution au cas où. Dites, à tout hasard, vous n'avez vu personne rôder autour de ma voiture ?»«
Pourquoi quelqu'un ferait ça ?»«
Vous avez raison, c'est stupide. » Elle prit congé de lui, regagna son sentier barré par de lourdes branches de sapin et s'enfonça dans la forêt, plus obscure que d'habitude en ce début d'après-midi. La buée épaisse qui s'échappait de sa bouche à chaque expiration lui voilait la vue. Son visage lui paraissait dur comme de la pierre. Elle se frictionna le nez et les joues. Son sang aussi avait fui le froid et reflué vers les organes essentiels. La jeune femme progressait à bon rythme. Il fallait avancer vite pour éviter un contact prolongé avec le sol glacé. Même équipée de semelles épaisses et de 2 paires de chaussettes, la morsure était là. Le vent avait forci. Des gifles cinglantes qui pétrifiaient tout sur leur passage et rendaient chaque tâche plus pénible. La marche, le bois à aller chercher dehors, le remplissage du réservoir du groupe électrogène. Après avoir longé la rivière et dévalé la pente menant à son chalet, Vera se réfugia au chaud et replaça sans tarder son argent dans une boîte rangée parmi les livres, au bas de la bibliothèque. Depuis qu'elle n'avait plus accès au monde connecté, elle préférait conserver une bonne partie de ses économies avec elle, plutôt que de les avoir perdues sur un réseau informatique. Ensuite, elle s'empressa de contacter André et lui parla de cette histoire de plaques et de panne. Il lui promit qu'il irait jeter un œil à sa voiture le lendemain matin. Instinctivement, il songeait à un problème d'alternateur. Soit quelques coups de clé à molette suffiraient, soit la pièce était morte et il faudrait aller en commander une autre en ville. Si c'était le cas, il s'y rendrait en 4x4. Après qu'ils eurent coupé leur communication, Vera resta là, longtemps, la joue dans une main, face à la radio Sibi désormais muette. que deviendrait-elle si l'appareil rendait l'âme lui aussi? Entendre la voix d'un autre habitant des bois, jouer aux échecs à distance et discuter avec lui de choses et d'autres, l'empêchait sans doute de perdre complètement les pédales. La neige tombait avec mollesse lorsqu'elle s'assit dans son fauteuil avec un verre d'alcool, à côté du poêle à bois, pour reprendre sa lecture de La fille venue de l'ombre. Elle en avait déjà lu une trentaine de pages, loin d'être originale. Une recette classique d'enlèvement, un truc qui promettait d'être sordide. Un roman dont le point de vue alternait entre celui de la jeune fille kidnappée et celui de son bourreau, qui la retenait dans une pièce aménagée et insonorisée. Vera se demanda si toute l'histoire se déroulerait en huis clos, entre elle et lui. Elle bâilla et se lova sous sa couverture en laine. Malgré tout, elle voulait découvrir la suite. Même si ce n'était pas de la grande littérature, force était de constater que cette Sophie Henrichs savait installer une ambiance pesante. Vera but un coup et s'immergea dans sa lecture. Soudain, un énorme craquement résonna à l'extérieur, puis un cri perçant qui sembla se propager jusqu'au cœur de la forêt. Vera s'extirpa de son fauteuil, laissant s'en alerte. Que se passait-il? Elle chaussa à la hâte ses apriski, enfila son gros blouson et s'empara de la lampe torche accrochée à droite de la porte d'entrée. De l'autre main, elle saisit le tisonnier posé près du poêle. Dehors, l'atmosphère chargée de minuscules cristaux de glace lui brûla les poumons. Elle dévala pourtant les trois marches et se précipita dans l'obscurité. D'où était venu le hurlement? Il ne s'agissait pas d'un animal. Une femme était en danger, là, quelque part dans la nuit. Vera n'avait pas mis ses raquettes. La neige alourdissait chacun de ses pas, lui donnant l'impression d'avancer au ralenti. Dans le cercle d'ambre que formait le faisceau de sa lumière, le sol luisait. Les troncs se dressaient à l'infini, tous identiques, quelle que soit la direction. Sans ses repères habituels, Vera se sentait perdue. Elle se tourna vers le chalet pour s'orienter. Elle s'était déjà beaucoup éloignée et l'habitation se résumait désormais à une bulle de vie dans la nuit. Où chercher? Elle écouta, sans déceler le moindre bruit.
« Il y a quelqu'un ?»
lança-t-elle. Sa voix rebondit de loin en loin contre les arbres. Vera obliqua à droite, revint sur ses pas, s'aventura à gauche, de la neige jusqu'au tibia. À intervalles réguliers, elle regroupait ses mains devant sa bouche pour souffler dessus, puis les tapotait avec vigueur contre sa poitrine pour faire circuler le sang. Elle entendit alors un murmure, comme si quelqu'un se tenait juste là, derrière elle. Ça chuchotait. « Le monstre est là !» Elle fit volte-face en brandissant son arme au-dessus de sa tête, mais il n'y avait personne. Le froid. Elle savait que le froid pouvait modifier ses perceptions. Sans gants ni bonnet, ses doigts et ses oreilles commençaient à devenir très douloureux. Elle reprit néanmoins sa progression, effrayée par toutes ces ténèbres qui l'environnaient, et gardant toujours la lueur de son foyer dans son champ de vision, histoire de se rassurer. Puis, après quelques pas éprouvants, elle s'arrêta net devant une mare qui se formait quand les eaux de la rivière gonflaient. Elle avait gelé. Vera en balaya la surface de sa torche et découvrit des fissures anormales en zigzag. Mais pas seulement. Un mètre devant elle, un gros trou se matérialisa dans la glace. Une chevelure blonde s'étalait comme une pieuvre juste au-dessus de l'eau noire. Une main blanche était crispée sur la branche d'un arbre qui avait cassé et était désormais couchée au sol. Vera était sous le choc. La silhouette ne bougeait pas. Paniquée, elle se sentait incapable d'avancer. L'eau sombre la tétanisait. Il fallait qu'elle se fasse violence. Malgré sa peur, elle fit un petit pas, se pencha en avant avec prudence, sans pour autant quitter la berge, les pieds ancrés dans la neige et se cramponnant à une lourde branche pour conserver son équilibre. Le corps gisait malheureusement trop loin pour qu'elle l'atteigne. Elle appela à l'aide, un long et déchirant cri dans la nuit. Elle devait trouver une solution, agir, coûte que coûte. Elle s'approcha le plus possible du bord, toujours agrippée à la branche, et, avec l'extrémité de son tisonnier, accrocha la veste en nylon du corps qui flottait. Des craquements inquiétants se firent entendre, tout autour. Vera pria pour ne pas glisser. D'un geste précis, retenant son souffle, elle tira la masse inerte jusqu'à elle. Le cadavre, car c'en était assurément un, portait une tenue de running noire, des baskets. Alors qu'elle allait presque pouvoir le toucher, il pivota soudain, lui dévoilant des yeux bleus iceberg, grands ouverts, pupilles dilatées, les cils blanchis de givre, les lèvres d'un rose pâle. Une partie de son visage avait été arrachée. Non, pas arrachée, écorchée, comme un masque qu'on aurait ôté au scalpel. De la matière grisâtre et épaisse sortait de sa bouche, de la vase. Vera tomba à la renverse. Ce visage, c'était le sien.